Actu SF, les podcasts.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Pardonnez-nous ces quelques petites minutes de retard. Alors, on fait un exercice qui est assez particulier puisqu'on va faire dialoguer les morts. Avec moi, les mortes. Pardon, on va faire dialoguer les mortes. Ouais, mais j'ai perdu mon suspense du coup. Alors, avec Elisabeth von Harburg qui est avec nous, et il faut absolument que vous lisiez notamment le cycle de Tyrannaël et la série Reine de mémoire, mais on ne va pas en parler. Et puis David Meulemans qui est directeur des éditions de Forge de Vulcain et qui a notamment fait traduire un livre d'essai d'Ursula Le Guin qui s'apprête à en faire d'autres. Et on ne va pas en parler non plus. Voilà, car aujourd'hui, pour vous, messieurs, dames, Acteur Studio, hein, véritablement. Voilà.
Quelle est ma motivation?
Elisabeth von Harburg et James Tipri Jr., de son vrai nom Alice Sheldon, Alice Bradley Sheldon, et David Meulemans et Ursula Le Guin. Voilà. Voilà, un rêve prend vie aujourd'hui sous vos yeux. L'idée de ce dialogue, c'est de faire revivre un petit peu ces deux autrices, ces deux écrivaines. Elles ont un lien un petit peu particulier qu'on va vous dévoiler au fur et à mesure. On se fait cette pièce de théâtre digne d'Hollywood. Vous verrez, il y a des effets spéciaux. Et ensuite...
On ne m'avait pas dit qu'on dansait. Hein,
hein?
Bollywood?
Ah non, Hollywood. Enfin, après, si tu veux faire des claquettes, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt à tout. Il n'y a pas de, problème. Donc, en gros, on les fait dialoguer un petit peu ensemble. Et puis après, on s'arrête et on essaye de porter un petit peu un regard sur tout ce qu'on a dit. Petite question à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte familial dans lequel vous êtes venu au monde et que vous avez commencé à grandir? Parce que ça aura évidemment un impact. Alors, qui veut commencer?
Alors, je vais commencer parce que c'est moi la plus vieille, je pense. Je suis née aux États-Unis, dans une ville dont je ne me rappelle pas le nom parce que je suis trop vieille, de parents intéressants. Ma mère était une écrivaine qui a connu un bon succès en tant qu'écrivaine de fiction, mais aussi surtout de récits de voyage. Mon père était un homme plus solide, plus... Comment dites-vous, grounded? Mis à la terre, plus installés dans le concret, mais tous les deux étaient des gens très aimants. J'ai failli avoir une sœur, mais elle est morte, une sœur aînée, elle est morte avant moi, et ma mère ne s'en est jamais remise, moi non plus. J'ai toujours eu l'impression que j'aurais dû ou bien ne pas être là, ou bien être elle, et qu'en tout cas j'aurais dû être meilleure que je n'étais. C'est un petit peu embêtant. Nous faisions partie de la bourgeoisie aisée. Et surtout, nous faisions partie d'une bourgeoisie intellectuelle qui ne craignait pas d'aller se promener. Et donc, très très jeune, quand j'avais 6 ans, je pense, je suis allée en Afrique. Isaac Dennison avait une farm in Africa. Moi, je suis allée visiter l'Afrique avec mes parents. Ma mère tenait son fusil d'une main et moi de l'autre. Et je pense que il y a eu d'autres visites en Afrique. On y est retourné à plusieurs reprises. Mais disons que c'est certainement ce qui m'a marqué autant et plus que la maison où nous allions passer nos vacances. Parce que, d'une part, j'y ai fait la découverte de l'autre et d'un autre radicalement différent des Blancs. Et par ailleurs, la découverte de la mort, d'une part sous son aspect menaçant, parce qu'on me disait « tu ne vas pas dans les grandes herbes, il y a des lions là !» Et d'un autre côté, à un moment donné, on a visité un village, il y avait un cadavre masculin empalé, enfin attaché à un poteau avec des mouches qui, dans un état avancé de décomposition, des mouches qui tournaient autour, et ça faisait partie autant... que le reste de mon expérience africaine. Et je pense que ça m'a traumatisée, carrément. J'ai jamais trop aimé ni Freud, ni Jung, ni la psychanalyse, parce que j'étais en général plus intelligente que mes psychanalystes. Mais ça m'a certainement marquée.
On a un beau terreau, là, hein, quand même, entre l'Afrique, le cadavre et la grande sœur. On commence bien.
Oui, un traumatisme enfantin, check.
Ursula, alors, quel est un petit peu votre contexte familial ?
Alors, moi, Ursula, je suis née une quinzaine d'années après Alice. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance à certains égards parce que je suis née au milieu d'une famille de bourgeois intellectuels, mais vraiment des personnes exceptionnelles. C'est-à-dire, en fait, mon vrai nom, c'est Ursula Kröber. Donc, c'est le K que je garderai toute ma vie dans mon nom, puisque Le Guin, c'est le nom de l'homme que j'épouserai plus tard, ou Le Guin, puisqu'il est d'origine française. Et Kröber, mon père, Alfred Kröber, c'est un Américain d'origine allemande qui est né en 1876. Quand il m'a, il est déjà assez âgé, il a une petite cinquantaine d'années, et je suis le quatrième enfant. Mais en fait, il a eu deux enfants d'un premier mariage. Sa femme est morte, il s'est remarié avec ma mère qui elle-même aussi avait eu un premier mariage sans enfant et elle s'est remariée avec mon père. Mon père et ma mère étaient des personnes assez exceptionnelles puisque mon père a été le premier étudiant en anthropologie sur le sol américain. C'était une discipline relativement nouvelle sur le sol américain. Alors, l'histoire existait déjà, l'histoire ancienne existait déjà, l'épigraphie existait déjà, mais il n'y avait pas de vrai département universitaire d'anthropologie. Et mon père a été le premier diplômé d'université américaine en anthropologie, le premier docteur en anthropologie et le cofondateur du département d'anthropologie de l'Université de Columbia. Donc l'Université de Columbia, c'est une université qui est dans la ville de New York, du côté nord de la ville de New York. Et ma mère était une de ses étudiantes, beaucoup plus jeune, et ils se sont rencontrés. Ils m'ont dit, donc je suis né au milieu d'un environnement extrêmement nourricier intellectuellement. Surtout que mon père et ma mère ont eu... on vit quand même dans une époque où la condition des femmes n'est pas encore aussi avancée qu'elle peut l'être aujourd'hui, même si elle est encore... Moi, en tant que féministe, entre guillemets, mais j'en reparlerai plus tard, je pense qu'il y aura toujours à faire pour la condition des femmes. Mais à cette époque-là, c'est effectivement la carrière de mon père qui avance le plus. C'est aussi parce qu'il est plus âgé. Mais en fait, les deux partagent des engagements intellectuels et sociaux très, très forts, notamment autour de la condition des Native Americans ou des peuples premiers américains, notamment des quelques peuples premiers américains qui vont disparaître dans les années 1910 aux années 1940, et notamment les habitants du nord de la Californie et de l'État d'Oregon. Donc au bout d'un moment, pour leur carrière, mes parents vont s'installer dans le nord de la Californie, puis en Oregon, et puis de nouveau en Californie. Et je vais grandir là, donc avec trois frères et sœurs, si mes souvenirs sont bons, et à la fois des Indiens, entre guillemets, qu'on appelle à l'époque Indiens, qu'on appelle plus du tout Indiens maintenant, qui est aussi toute une ribambelle d'universitaires, d'intellectuels européens. Parce que c'est assez important quand même de dire que j'ai un intérêt très particulier pour la culture classique, la culture européenne, et c'est comme ça que j'arrive jusqu'à l'université. Mais je serais assez curieux de voir quelles sont les études que toi, Alice, tu as faites.
Mais, normalement, j'aurais dû faire les études d'une jeune fille bien. Sauf que je m'ennuyais à mort. J'ai jamais fini mes études, aucune de celles que j'ai commencées. Par contre, après la guerre, qui m'avait mis un petit peu de plomb dans la tête, je suis allée terminer mes études comme en psychologie animale. Il y a un nom pour ça. J'ai tout lu ça en anglais, je ne me rappelle plus. Pas vraiment d'éthologie, non. C'était ce qu'on faisait à l'époque, on faisait des choses horribles à des rats. Et je l'ai écrit par la suite dans une nouvelle qui s'appelle « Le psychologue qui ne voulait pas faire des choses horribles à des rats ». C'était très vivisection et ce genre de choses. Mais ce qui me fascinait, c'était le phénomène de la perception, et en particulier la perception visuelle. J'ai commencé quand même comme artiste visuel. J'étais douée pour le dessin, j'étais douée pour la peinture, et j'ai même cru, on m'a fait croire ou on m'a laissé croire pendant un moment, que je pourrais être une artiste et vivre de cette façon-là. Ça n'a pas marché, peut-être un petit peu parce que je m'auto-sabotais, mais il m'est resté cette fascination pour le phénomène de la perception. Et déjà, la perception en tant qu'elle est socialisée. Et donc, j'avais envie de voir comment les rats fonctionnaient au niveau de la perception. J'avais des hypothèses et j'ai commencé une maîtrise dans ce domaine-là. On n'était pas des foultitudes de femmes dans ce domaine-là. J'ai eu la chance de tomber sur un excellent directeur de maîtrise qui m'encourageait, qui restait un ami. Et j'ai terminé cette chose, mais je me suis rendu compte aussi très vite que faire des choses horribles à des rats, c'était pas mon truc. Et donc, ça, je l'ai terminé, et j'en étais très fière, parce que justement, quand je regarde mon parcours éducationnel, hein, il y a tout plein de choses qui sont restées en l'air. Je suis allée, on m'a envoyée dans un pensionnat en Suisse, horreur, avec des filles de riches et tout. Ah, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Là, j'ai senti à quel point je n'arrivais pas à m'intégrer. Je me suis toujours sentie comme une espèce d'extraterrestre. Et là, dans ce pensionnat, en particulier avec ces horribles gamines super friquées et super snobs, c'était bon. J'ai donc pas terminé là non plus. Donc, j'avais jamais rien terminé. Ce qui fait que j'ai été très fière de mon diplôme parce que celui-là, je l'avais terminé. Je l'avais voulu, je l'avais eu. C'est ça, mon parcours.
Alors, moi, mon parcours intellectuel, il a commencé. Je vous ai parlé de ma mère et du fait qu'elle aussi, c'était une intellectuelle, mais sa carrière a été moins brillante comme ça. Et des années plus tard, en discutant avec elle, je me rendrais compte que ma mère s'est censurée et que c'est quand moi j'ai commencé à écrire que ma mère s'est sentie elle aussi autorisée à écrire et elle va connaître elle aussi une sorte de petite gloire littéraire en écrivant la biographie d'un. D'un représentant d'un peuple premier qu'on connaissait quand j'étais enfant. Et elle en fera une deuxième version en 78, qui sera une version plus romancée. Mais donc, dans les années 70, elle s'autorise à écrire. Mais en fait, le fait qu'elle ne s'autorise pas à écrire, c'est parce qu'il y a la personnalité un peu écrasante de mon père, qui était, tel que je le décris, quelqu'un de plutôt gentil, sympathique, voilà. Mais finalement, mon père et ma mère m'ont tous les deux encouragé à écrire. Donc, je raconte souvent, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de preuves, que j'avais envoyé dès 1940, donc je devais avoir 11 ans et demi, une nouvelle à une revue américaine qui l'a poliment déclinée. Et c'était le début de... Alors, c'était une nouvelle de fantastique, voilà. Et j'avais un intérêt dès l'enfance pour ce que vous, les Français, vous appelez maintenant les littératures de l'imaginaire, et pour moi c'était juste de la littérature de l'imagination, c'était juste comme ça qu'il fallait écrire, et donc je savais que j'étais destinée aux lettres, et puis d'une certaine façon, ça m'a un peu le fait que de ne pas connaître la gloire littéraire dès mes 11, 12, 13, 14 ans, ça m'a un peu limitée dans ce travail-là, donc les années de lycée se passent relativement bien, mais je deviens plutôt une bonne élève, assez studieuse, assez littéraire. Je suis scolarisée à Berkeley, où mon père est devenu enseignant. Et d'ailleurs, parmi mes camarades de classe, il y a un certain Philippe Cadic. Voilà. Alors, à l'époque, on ne se connaît quasiment pas, en fait. On ne se parle presque pas. C'est des années après qu'on va un peu se croiser, enfin, se correspondre, pas se croiser. Voilà. Mais alors, après, comme je suis bonne élève, brillante, fille d'intellectuel, je pars à Radcliffe. Et puis surtout, après, je finis mes études à Columbia, où mon père avait fondé le département d'anthropologie 49 ans plus tôt. Donc j'arrive à Columbia, et là, en fait, j'ai d'abord un master, et puis j'entame une thèse. Mon sujet, c'est les poètes français et italiens de la Renaissance, et puis finalement, ma thèse, c'est surtout sur des auteurs français.
Je dois dire, j'aurais aimé avoir une relation aussi apaisée avec ma mère. Parce que dans notre famille, la personnalité forte et écrasante, c'était ma mère. Mon père, non, vraiment pas. Je l'aimais beaucoup. D'ailleurs, si j'ai choisi le pseudonyme James Tiptree Jr. pour diverses raisons dont nous parlerons éventuellement, mais j'ai toujours conservé le Junior qui m'avait été suggéré par mon mari à l'époque, parce que mon père était James Senior. Il s'appelait James. Et donc... Mais ma mère, c'était vraiment, non seulement par sa carrière, c'était aussi une femme du monde extrêmement mondaine. Elle avait un succès fou, elle était belle, elle était intelligente, elle était drôle, elle était parfaite. Et moi, j'étais pas parfaite. Et alors, en même temps, c'est curieux parce que c'était une relation relativement conflictuelle et de rivalité. Mais non seulement c'était... moi, j'essayais de rivaliser avec ma mère, mais étrangement, ma mère essayait de rivaliser avec moi. Alors, ça a donné des résultats assez difficiles, d'autant plus que, tout comme mon père, elle a vécu très longtemps et que j'ai donc eu à faire l'expérience de devenir la mère de ma mère. À un moment où j'étais vraiment pas prête pour ça, j'ai jamais été tellement du modèle infirmière, moi. Et donc, c'est ça. Je vous envie, cher ami, votre mère.
Alors, il faut voir que, comme je suis quelqu'un d'extrêmement apaisé et d'une certaine façon épanoui, il est possible que je fasse une description particulièrement laudative de mes parents. Pour être plus précise, mes parents aussi, en dehors de cet amour, de cette confiance en soi intellectuelle très importante qui me donne, ce qui donne parfois l'impression aux gens que je suis une féministe parce que je suis accomplie, mais en fait je ne suis pas à proprement parler féministe. Alors c'est tout un débat pour moi, ça me permet de parler des influences, de deux influences de mes parents. Tout d'abord, l'influence anthropologique, globalement d'un point de vue pratique, elle me vient de mes deux parents. D'un point de vue théorique, elle vient beaucoup de mon père, qui écrit beaucoup, qui publie, qui me fait lire ce qu'il écrit, qui me fait lire des auteurs. Et ça, dans mon écriture, ça va être très important, c'est-à-dire que moi, en fait, les années 50, qui est vraiment l'âge d'or de la science-fiction, d'une certaine façon, je passe complètement à travers. C'est-à-dire, j'ai pas l'esprit dedans, je fais mes études, je lis de la littérature classique, je voyage, je rencontre mon époux, ce type de choses. Donc je suis loin de cette littérature-là et mes rêves d'enfant et d'adolescent d'écrire la littérature d'imaginaire sont assez loin de moi à ce moment-là. Mais en fait, là où dans l'âge d'or de la science-fiction américaine, les auteurs qui sont beaucoup des hommes sont fascinés par la science, les sciences dures. Moi, je suis fasciné par l'anthropologie, puisque tout simplement, c'est la science familiale, et j'ai sans doute chez moi une des plus grosses bibliothèques aux États-Unis d'anthropologie. Et c'est quelque chose qui va toujours être très important dans mon œuvre, c'est le rapport à l'altérité. Parce que tout simplement, moi, j'ai toujours vécu dans des situations où j'étais exposé à cette altérité radicale, puisqu'il faut voir que, alors que ce qui triomphe au cinéma, c'est des films de western où les Indiens sont les barbares sanguinaires, moi, quand je parle des, là, on parle des années 30-40, puisque dans les années 50, le western, ça évolue, mais moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des Indiens à ma table qui me parlent de la vie dans la réserve, ce qu'était leur pub, ce qu'il a apporté, leur chant, leur danse. Il y a même une fois, dans les années 80, je crois, je suis allé pour recréer même des chants indiens imaginaires d'une des œuvres de fiction que j'avais écrite. Mais là, je m'avance un peu trop. Sur ma mère, sur l'apport de ma mère, il est varié parce qu'elle aussi, c'est une anthropologue. Mais en fait, elle m'offre Virginia Woolf quand je suis adolescente. Et d'une certaine façon, ça m'expose au féminisme. Et notamment à ce texte de Woolf qui est Une chambre à soi, où en fait elle insiste sur le fait que fondamentalement, si les femmes n'ont pas eu... s'il n'y a pas moins de grands écrivains femmes ou écrivaines femmes du passé, c'est tout simplement qu'on leur a jamais laissé l'espace de se développer. Si vous prenez Shakespeare, il écrit, on le laisse. Et la sœur de Shakespeare, la sœur imaginaire de Shakespeare, puisqu'elle n'a pas existé, on la marie jeune. Il y a de fortes chances pour qu'elle meure en couche, ou sinon elle meurt quelques années plus tard. Et voilà. Et donc elle n'a jamais le temps d'écrire et de grandir comme romancière. Et ça me pose une difficulté parce que d'un côté, cette pensée m'intéresse, et en même temps, en fait, lors d'un de mes séjours à Paris, je rencontre Charles Le Guin, qui est un historien spécialiste du XVIIIe siècle. Nous tombons amoureux, nous nous marions assez vite, nous rentrons aux États-Unis, et là, en fait, lui, il entame une carrière universitaire, et moi, j'accepte d'être comme ma mère, celle qui va suivre son mari. Et donc, on va d'abord aller dans le sud des États-Unis, le centre des États-Unis. On va pas mal se déplacer. Puis finalement, atterrir de nouveau sur la côte ouest américaine. Et donc, d'une certaine façon, à la fin des années 50, je ne suis pas une féministe accomplie, même si bon, le mouvement féministe est légèrement postérieur. Mais je ne me définirais pas comme ça, comme une féministe.
mon rapport, moi, à la littérature, d'une part, et à la science-fiction, ont été tout à fait différents. Le rapport à la science-fiction s'est établi très tôt. Ma mère avait des amis masculins, que j'appelais oncle, et il y en avait un, oncle Hubert, je pense, qui aimait la science-fiction et qui achetait plein de revues de science-fiction, enfin, des choses comme ça, les trucs de l'époque. Et quand il se faisait prendre par ma mère, il disait « Ah, mais j'ai acheté ça pour la petite !» Ah bon. Mais je lisais tout ça avec beaucoup d'intérêt, ce qui fait que j'ai lu la science-fiction d'avant les années dites âge d'or, et j'aimais ça, je trouvais ça tout à fait intéressant. C'était des aventures, et moi j'avais envie de vivre des aventures. Après tout, je suis allée en Afrique, c'était des aventures. C'était des aventures très masculines, bien sûr. Je voulais mon fusil. Pendant des années, j'ai réclamé un fusil à mon père. Finalement, il a fini par m'en offrir un, oui, il m'en a fini par m'en offrir un, malheureusement. Nous verrons plus tard pourquoi. Et donc, pour ce qui est de la science-fiction, pas de problème. Moi, j'étais, il y avait pas de, on m'empêchait pas de lire, en tout cas. Pour la littérature, c'est plus compliqué parce que non seulement j'avais beaucoup de mains pour dessiner, peindre, etc. Et j'ai même été exposée dans le salon des indépendants à New York à une année, je me rappelle plus laquelle non plus. Mais j'avais aussi un bon coup de patte avec une plume. J'écrivais, pas et tout. Ma mère écrivait, n'est-ce pas? Et puisqu'elle écrivait, moi, il fallait bien que j'écrive aussi. Sauf qu'il ne fallait pas que j'écrive. Oui, mais j'écrivais quand même. Alors, j'avais cette espèce de position très conflictuelle vis-à-vis de... ambivalente, disons, vis-à-vis de l'écriture, parce que d'une part, j'avais des modèles qui étaient d'une part ma mère, le succès de ma mère, etc. Je ne voulais pas écrire ce qu'elle écrivait, mais je voulais écrire aussi bien qu'elle. Et en plus, j'avais des modèles qui étaient exclusivement masculins. Il faut quand même bien vous rendre compte que j'ai grandi dans la... J'ai grandi dans la première moitié, enfin disons le premier, oui, la première moitié du XXe siècle. J'ai été publiée, mais chaque fois, je trouvais que ça faisait pas sérieux. Je considérais que c'était pas sérieux, la littérature. La science-fiction, j'aimais la science-fiction parce que c'était pas sérieux, mais la vraie littérature devait être sérieuse. Or, moi, ce que j'écrivais, ça pouvait pas être sérieux puisque c'était moi qui l'écrivais. Alors là, c'était plutôt mal parti pour l'écriture, en ce qui me concerne. Et ce n'est que petit à petit, et avec un subterfuge dont nous allons reparler, que j'ai fini par trouver ma voix VOIX et ma voix VOIE, mais même là, j'ai mis très longtemps à me convaincre que j'avais le droit d'écrire. Cette question du droit à l'écriture... qu'on se donne ou qui vous est donnée est vraiment très importante pour une écrivaine ou un écrivain. Et moi, ça a pris vraiment très très longtemps. Il a fallu des détours qui ont été aussi dommageables que favorables pour moi.
Alors moi, Alice, j'ai eu quand même beaucoup plus de chance parce que je t'ai parlé de cet environnement familial, mais qui est un environnement complètement exceptionnel aux États-Unis. C'est-à-dire que moi, on s'attend à ce que j'écrive à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de pression non plus, mais il y a un encouragement. Et alors, il y a une autre référence auquel je viens de penser en t'écoutant sur la confiance en soi qu'il faut pour écrire. C'est que à l'époque, à l'Université de Columbia, il y a une grande vogue des philosophies orientales. Et à ce moment-là, moi, je découvre, comme mes camarades de classe de ma génération, et certains, par exemple, seront des membres de la Beat Generation qui auront découvert les poètes zen, ce type de choses. Moi, je découvre le Tao Te Ching. Et c'est finalement, quand je reviens de France avec mon époux et qu'on commence cette pérégrination dans plusieurs universités américaines, je suis déjà... Il y a beaucoup de choses qui sont en place d'un point de vue intellectuel, l'anthropologie, un début d'intérêt pour le féminisme, le Tao Te Ching qui est vraiment très structurant dans mon œuvre. Et donc je suis mon mari, je suis souvent, je travaille, mais je suis plutôt secrétaire, donc je suis quand même des secrétaires sans doute les plus diplômés à mon époque, même les plus surdiplômés, voilà. Et on a d'abord deux enfants, deux filles, je crois. Je ne suis pas une très bonne mère parce que parfois je suis très concentré sur ce que j'écris, donc j'oublie certaines choses importantes. Voilà. Voilà, Caroline et Elisabeth. Et puis après, un garçon, un peu un accident, mais finalement c'est un accident heureux. Et voilà, parce qu'au début il était entendu qu'on en aurait deux, ça serait plus simple à gérer. Trois, ça commence à être beaucoup quand même. Et je n'ai pas envie de me retrouver dans une famille à quatre comme moi j'ai grandi dans une famille à quatre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai finalement un mode de vie qui peut sembler très classique pour une Américaine, c'est-à-dire je travaille comme secrétaire ou copywriter, je m'occupe des enfants, et une fois que j'ai nourri les enfants, là par contre c'est moins normal, à 20h je me mets à écrire, et j'écris tous les soirs. Et donc moi je me sens autorisé à écrire, j'écris. Par contre le monde ne m'autorise pas trop à écrire en dehors de ce cercle familial de mon père, ma mère. Alors mon père il meurt en 60, lors d'un voyage à Paris, donc c'est au moment où je commence vraiment à écrire qu'il va mourir. Ma mère m'encourage, mon mari m'encourage, mais à ce moment-là, je veux écrire ce qu'on appelle de la littérature générale. J'écris, alors dans certaines lettres, je raconte que j'ai écrit 3 romans, 4 romans, 5 romans. Je les ai envoyés à droite à gauche, ils ont tous été refusés. Alors vraisemblablement, dans des romans que j'ai écrits et publiés plus tard, j'ai piqué des morceaux, j'ai recomposé, réécrit, mais vraisemblablement, j'ai jamais publié ces 5 romans qui sont sans doute encore complètement inédits, s'ils existent et si je ne les ai pas brûlés quelque part. Voilà. Mmh. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Et je me mets finalement à revenir vers l'écriture par un... Alors, j'ai une grande chance qui est liée au fait qu'il y a une petite fenêtre d'opportunité qui apparaît à un moment pour les romancières de science-fiction. Et ça date de 63 à 67. Et entre 64 et 66, je vais en profiter, c'est que dans plusieurs revues américaines de publication de nouvelles, parce que souvent, aux États-Unis, on commence par la publication de nouvelles, qu'on fait pendant un certain temps, et après, on se tourne vers le roman, qui permet des textes qui ont une espérance de vie plus longue. Plusieurs de ces revues vont être dirigées par des femmes, et qui sont censés un peu aller chercher des nouvelles voies. Et je vais vraiment partir là-dedans. Et si je me souviens bien, mon premier texte qui profite de cette fenêtre d'opportunité, c'est Le Monde de Rocanon.
Quelle existence dorée vous avez vécue, ma chère. Mais, tu évoquais tout à l'heure ta féminité. Là aussi, mon rapport à la féminité est loin d'être aussi apaisé. Ma mère était quelqu'un d'assez... Bon, donc elle avait une carrière, ce qui était très inhabituel, surtout au début du siècle. Elle avait une carrière comme écrivaine, comme hôtesse de mondaine, et donc elle avait quand même un statut à part comparé aux autres femmes que je pouvais rencontrer. Mais elle m'a toujours poussée du côté de l'intégration, ne fais pas de vagues. Et donc elle aurait voulu que je sois une femme normale. Manque de peau, je n'en étais pas une, je n'en ai jamais été une. Et j'ai eu des problèmes psychologiques très tôt. On m'a diagnostiqué beaucoup trop tard comme cyclothymique, c'est-à-dire cyclodépressive. J'ai lutté contre des dépressions épouvantables toute ma vie. Ça m'a obligée à avoir recours à des drogues, en particulier les amphétamines, qui ne font pas vraiment du bien au système. Et ça a coloré toute mon existence, mais aussi toute mon écriture. Par rapport à la féminité, alors c'était quoi une femme normale? C'était quelqu'un qui se mariait et qui avait des enfants. Et mon problème, c'est que ce qui m'attirait vraiment, moi, c'était les filles. Toutes mes tombées en amour, tous mes crushs, quand j'étais adolescente, étaient sur des adolescentes, et toutes des adolescentes endommagées en plus, qui mouraient toutes les unes après les autres, ça ne m'arrangeait pas non plus. L'idée du lesbianisme ne m'effleurait pas, c'était quelque chose... Non, enfin, on n'en parlait pas, c'était... Et donc, je n'avais aucun... À la limite, je n'avais pas vraiment de mots. Si, j'avais un mot, mais il n'était pas positif, donc ça ne marchait pas. Et puis, quand je suis allée à l'université, la première fois, avant de finir mon diplôme, avant la guerre, moi, j'ai décidé que j'allais avoir du sexe. Parce qu'enfin, le sexe, c'était quoi? Je ne savais pas. Alors, j'ai eu du sexe. J'ai fait du sexe. J'ai eu un... Je suis tombée enceinte. Oups. Non, ça ne se faisait pas. Et là, mes parents ont été extrêmement compréhensifs, à ma grande surprise. Ils m'ont emmenée à voir un avortement qui s'est très mal passé. Alors ça non plus, ça ne m'a pas arrangé. D'autant plus qu'on a été obligé de m'opérer de telle façon qu'il n'était plus question que j'ai des enfants. Alors cette avenue-là a été fermée, crac, dès ma jeune adulteté. Bon, alors qu'est-ce qui me restait pour être une femme? Aïe, aïe, pas grand-chose. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a comme une faille qui s'installe dans mon être profond. Et dans cette faille, il va s'installer une autre persona, dont il va quand même falloir qu'on parle parce qu'il commençait un peu tard. J'écrivais des trucs, bon, j'en ai publié quelques-uns, sous divers noms, des pseudos féminins, mon vrai, mon véritable nom, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai écrit une histoire de science-fiction. Et alors là, une autre voix, VOX, s'est présentée à moi. C'était pas, quand j'écrivais des trucs, c'était pas mal écrit, c'était bien, j'avais une plume. Mais il n'y avait pas d'élan, il n'y avait pas vraiment quelqu'un de complet et d'impliqué dedans. Et tout d'un coup, en écrivant cette histoire de science-fiction, dont je ne me rappelle pas non plus le titre, là, une voix s'est imposée à moi. Et c'était ma voix sans être ma voix. Et là, on me demandait de la biographie, on me demandait un nom, etc. Entre-temps, la guerre était intervenue. Je m'étais engagée dans les forces féminines qu'on avait constituées à cette époque-là, la WAC. Et là, j'avais vu de près comment les femmes étaient traitées. On avait besoin de nous, donc on nous acceptait, tout en maintenant notre statut inférieur. Dès que la guerre a été finie, de la même façon qu'on a évacué toutes les femmes qui travaillaient dans les usines, qui prenaient la place des hommes, bah oui, les hommes étaient ailleurs. Et on nous a évacués aussi. J'ai pas vraiment aimé ça. Et la façon dont on nous traitait, et la façon dont les hommes nous traitaient en tant que femmes et non pas en tant que collègues, la façon dont ils essayaient de flirter à la pression avec nous, tout ça, ça ne me rendait pas féministe, mais j'ai toujours été extrêmement sensible à l'injustice. Et ça me frappait comme injustice, pas comme femme, mais comme personne. Et donc, après la guerre, j'ai commencé à écrire ces textes. Et là, on me demandait de la biographie et un nom. Et je me promenais avec mon mari, que j'ai rencontré dans des circonstances complètement différentes et très tard, et qui était plus âgé que moi, de 14 ans. Nous nous sommes rencontrés en tant qu'employés du gouvernement. Nous travaillons dans un endroit, dans un soubassement du Pentagone. C'était pas de l'agent secret, mais c'était mon œil, ma capacité de perception m'avait rendue extrêmement bonne pour interpréter les photographies aériennes. Or, c'était extrêmement important pendant la guerre de pouvoir interpréter. Oui, bon, bah, ça, c'est un dépôt de munitions, mais ça, c'est un hôpital. Bon, sauf qu'elle savait très bien que quelquefois les bombes tombaient à côté. Ça aussi, elle, parce que oui, je commence à parler en tant que James là. Oh là, la dissociation recommence. Bon, mais c'est ça. Et donc, après la guerre, je continuais à travailler pour le gouvernement. Or, écrire des histoires de fiction pour le gouvernement, c'est pas vraiment vu bien. Il y avait un auteur de science-fiction à l'époque qui avait choisi aussi un pseudonyme pour écrire. C'était Cordwainer Smith, qui s'appelait Paul Linebarger et qui était aussi un agent du gouvernement. Bon. Alors bon, je suis en train de me promener, en train de faire les courses avec mon vieux mari, enfin avec mon mari, il n'était pas vieux à l'époque, je ne le voyais pas comme vieux, avec mon mari dans un centre d'achat, enfin dans une épicerie, et je cherchais un nom, et je vois un pot de confiture d'une marmelade d'orange, les confitures Tiptree, qui existent toujours, et je dis, ah, James Tiptree, voilà, James Tiptree, Ting, j'appelais mon mari Ting, il s'appelle Huntingdon, je l'appelais Ting. Alors Ting me dit Junior, acheté. Ok, James Tiptree Junior, it is. Et alors là, je me suis sentie extraordinairement libérée. J'ai inventé une espèce de biographie qui était vraie. James, il était un agent du gouvernement. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'il faudrait que je vous tue. J'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé aux Indes, etc. J'aime la pêche. Tout ça était absolument vrai. Je n'ai jamais menti. Quand je t'ai écrit la fameuse lettre où je te révélais que, je t'ai dit, je ne t'ai jamais menti. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Il n'y a que le nom qui n'était pas le bon. Je n'ai jamais eu le sentiment de mentir et je n'ai jamais eu le sentiment que c'était une supercherie. Pour autrui, ça a été perçu comme une supercherie, d'autant plus que je l'ai entretenu pendant au moins une dizaine d'années délibérément, en ajoutant des éléments biographiques, en refusant systématiquement de rencontrer des gens. Je n'allais pas dans les conventions. On ne m'écrivait pas à mon adresse, on m'écrivait à une boîte postale. Et une fois, il y a quelqu'un qui a trouvé moyen, d'une façon ou d'une autre, de reconstituer, de trouver mon adresse et qui se pointe à mon adresse. Aïe, aïe. Et là, il se trouve devant une vieille madame qui lui dit « Ah non, James n'est pas là. » Ok, alors il est reparti, mais là j'avais eu chaud. Ça commençait à sentir le roussi un peu pas mal. Et donc James Tiptree a commencé à publier des nouvelles sans problème. C'était un homme. Et en plus, cet homme écrivait avec une voix vraiment différente. Ses études, mes études, nos études, est-ce qu'il faut que je dise nous maintenant ? Nos études sur les rats m'avaient donné tout un tas de perspectives très intéressantes. Mon travail pour le gouvernement m'avait donné une voix très masculine, entre guillemets, c'est-à-dire qui correspondait aux stéréotypes masculins. Donc, j'étais un homme, j'écrivais comme un homme, pensait-il, et j'écrivais des histoires vraiment différentes. Et j'ai commencé à publier systématiquement, et j'ai commencé à gagner des prix. Au point que Harry Harrison, à un moment donné, a dit, je ne sais plus qui était la femme à battre, mais l'homme à battre, au niveau des prix, puisque c'était ça qui les intéressait, au niveau des prix, c'était James Tiptree Jr. Robert Silverberg aussi s'est ouvert la boîte d'une façon inconsidérée, parce qu'à un moment donné, vous comprenez, les bruits, des rumeurs, parce que le milieu de la science-fiction est très curieux. C'est notre marque de fabrique. Et on se disait, mais voyons, qui c'est Tiptree ? Alors, c'est un agent de gouvernement ? Non, c'est un extraterrestre. Et, oh, mais c'est peut-être une femme. Non, ben voyons donc. Non, c'est pas possible, une femme ne peut pas écrire comme ça. Et c'est ce que Silverberg a dit. Non, c'est un style musclé. Et je dois dire que Robert a été très gracieux quand il a appris la vérité. Que je lui ai dit, écoutez, pardonnez-moi de vous avoir trompé. Pardonne-moi, je tutoie, bien sûr. Pardonne-moi de t'avoir trompé. Il a répondu, non. Tu ne m'as pas trompé, je me suis trompé moi-même. Il avait reconnu le problème de la perception. Alors, à un moment donné, donc, ça a senti le roussi et ça allait sortir parce que ma mère a eu la mauvaise idée de mourir et on a publié une notice nécrologique et la seule personne qui restait dans la famille, c'était Alice B. Sheldon, dont la biographie succincte correspondait exactement à celle de James Tiptree. Ajoutez ça aux soupçons qui couraient et aux rumeurs et crac. Alors là, il a fallu que je me dénonce. Alors j'ai commencé par écrire des lettres en tremblant. J'étais terrifiée. Parce que qu'est-ce qu'on allait... Tous ces amis que j'avais, je m'étais enfin trouvé une famille. Une vraie famille qui m'acceptait comme je me sentais, à défaut de comme j'étais vraiment. Et est-ce que cette famille allait me lâcher aussi ? Et je dois dire que non. En gros, les réactions ont été... Les réactions des gens qui comptaient vraiment pour moi ont été positives. Que ce soit la tienne, ta lettre de réponse, je pleurais en la lisant. Franchement, je pleurais. J'ai jamais été avare de larmes en réalité. Mais bon, est-ce que c'est un attribut féminin ? Non, pas vraiment. Mais vraiment, cette lettre que tu m'as écrite était très très touchante. Joanna Russ a très bien accepté aussi. D'autres, des hommes, ont bien accepté aussi. Tout le monde disait ah ben elle nous a bien eu. Mais surtout, beaucoup plus important. Je leur avais mis le nez dans leur caca et il y en a beaucoup qui étaient capables de reconnaître que oui, ça sentait mauvais. Oui, c'était quoi le rôle des femmes dans la littérature ? C'était quoi la place des femmes dans la science-fiction ? Et c'est quoi une écriture féminine ? Et c'est quoi une écriture masculine ? Et ce sont des problèmes que, si j'en juge par ce qui se passe aujourd'hui, on n'a toujours pas résolu. Et disons que, rétrospectivement, depuis les limbes d'où je vous parle, puisque je suis morte et enterrée, je dois dire que je suis extrêmement fière d'avoir pu engager cette conversation avec d'abord toute la génération d'écrivaines de la génération de Le Guin et toutes celles qui ont suivi. Parce que à chaque fois que quelqu'un découvre cette histoire, peut-être que vous l'ignoriez, mais à chaque fois que quelqu'un découvre mon histoire, notre histoire, on se dit... Ah ben oui, tiens, coudonc, pourquoi est-ce que je lis ça, écrit, signé par une femme, je trouve ça moins bon. Des étudiants à qui on fit lire le même texte, signé par un homme et signé par une femme, le texte masculin est meilleur, pardon ? C'est toujours là. Alors donc, ça, de ce point de vue-là, je suis très heureuse d'avoir été James Tiptree. Et je suis très heureuse qu'une femme ait été James Tiptree Jr., comme tu l'as dit très bien. Ce n'est pas... James Tiptree est une femme. Oh, ciel, quelle horreur. Non, c'est une femme et James Tiptree. Et l'ordre d'énonciation change complètement le sens. Merci, Ursula, d'avoir dit ça de cette façon-là. C'était vraiment la façon de le dire. Voilà. Alors, James Tiptree a finalement mal tourné parce qu'il faudrait quand même le dire.
On va juste demander à Ursula sa réaction.
Ursula, alors... Parfois, comme j'ai une vie longue que j'estime extrêmement satisfaisante, qui m'a d'ailleurs mené sur la dernière partie de ma vie, à partir des années 2000, à être couverte de prix, de reconnaissance, d'honneur, de la médaille du Congrès, de la médaille de la liberté remise par le président Obama, par National Book Award. J'étais la deuxième femme à rentrer dans la Library of America, qui est l'équivalent. Alors, les Français disent toujours la Library of America, c'est l'équivalent de la Pléiade. Sauf qu'ils oublient qu'en fait, la Pléiade est une collection qui appartient à Gallimard, une société commerciale, tandis que la Library of America est un consortium, c'est-à-dire l'équivalent d'une ONG. Donc, en fait, ils ne publient pas des gens pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de Jean d'Ormesson, par exemple, dans la Library of America. Mais il y a les œuvres complètes d'Ursula Le Guin qui ont été publiées deux ans avant ma mort. En fait, moi aussi, j'ai eu à affronter, d'une certaine façon, le sexisme, parce que finalement... j'ai jamais su exactement pourquoi mes romans de littérature générale n'étaient pas acceptés. Les excuses me semblaient toujours pas très très convaincantes. Quand mes nouvelles ont été publiées, ça s'est bien passé parce qu'il y avait eu cette fenêtre d'opportunité. Mais quand j'ai voulu passer au roman, là, ça a été plus difficile. C'est-à-dire, on m'a dit que, en fait, une romancière, il pouvait pas y avoir de romancière de science-fiction. Et c'est même arrivé une fois où je suis allé voir un éditeur, je lui ai présenté mon nouveau roman, et il m'a dit une femme ne pouvait pas écrire de la science-fiction, et il avait oublié que 3 ans auparavant, sa maison d'édition avait publié un de mes romans qui avait été un succès. Et c'était un peu douloureux comme expérience. Et on m'a longtemps dit en fait, qu'au début, mon écriture était masculine, que mes premiers romans étaient très masculins, et mon écriture a petit à petit continué d'évoluer, mais vraiment sur presque 50 ans d'écriture, sur la question de l'identité sexuelle. Par exemple, un de mes romans les plus importants, qui est peut-être celui qui a eu le plus de succès, c'est La main gauche de la nuit, qui part de cette hypothèse de dire on retire le sexe comme identité, et qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste des êtres humains ? Et en même temps, dans ma manière d'écrire, je gardais par moments des pronoms. Ça avait posé des problèmes à certains traducteurs qu'on traduit plus tard, en fait, parce que quand ils ont traduit dans certains pays dans les années 90, voire même au début des années 2000, ils se sont dit « Ah, c'est bizarre, il n'est pas allé assez loin dans le style ». Et donc, dans les années 2000, j'ai même dit que si je devais réécrire « La main gauche de la nuit », j'écrirais différemment pour vraiment adopter une langue complètement neutre d'un point de vue sexuel. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'un des romans qui m'a inspiré le plus de fierté, c'est mon dernier grand roman, en fait, c'est Lavinia, qui est un roman qui est un destin de femme, qui assume le jeu, puisque c'est écrit à la première personne, et qui est à la fois une des premières femmes célèbres, bon, après Ève, on met Ève de côté parce que c'est religieux, c'est une des premières femmes historiques célèbres après Hélène de Troie. Et donc Lavinia, c'était la troisième épouse de Paris, c'est ça ? Pas de Paris, de... Déné, pardon. Voilà. Donc, il y a effectivement eu dans mon écriture toute une marche vers la voix féminine, sachant que est-ce qu'elle était, elle est juste féminine parce que c'est des personnages féminins. Mais à proprement parler, j'ai jamais considéré que mon écriture était particulièrement féminine par le style ou ce type de choses.
Le temps file et on bavarde, mais.
Tu nous fais dialoguer, qu'est-ce que tu veux,
Oui, non, mais c'est génial, j'ai posé 2 questions en 50 minutes. C'est la conférence la plus facile du monde. Parlez-nous juste de votre correspondance épistolaire, ouais, et de votre regard l'une sur l'autre.
Ursula, moi, j'admirais beaucoup Ursula parce qu'elle était arrivée avant moi et elle était justement couverte d'honneur. Moi, j'étais le petit inconnu. D'abord, James Tiptree Jr. était fanboy. Il écrivait des lettres particulièrement bien écrite, articulée, de commentaires sur les textes, le genre de lettres que les auteurs aiment recevoir. Et il écrivait des lettres d'admiration à tous les auteurs qu'il aimait. Et Ursula a très bien répondu. Et nous nous sommes trouvés plein de résonances, malgré nos types d'existence différents et tout. C'était au niveau de l'écriture, beaucoup. Et au niveau de la personnalité, parce que... Ursula, tu as toujours eu quelque chose de très nurturant, nourrissant, j'allais dire maternel, mais bon, quelque chose d'enveloppant. Et moi, j'étais tout en angle. Et c'était comment dirais-je, quand j'avais mes moments de dépression terribles, tu étais là pas pour me dire « Ah mais non, ça va passer !» Non, non, tu disais juste « Je suis là !» Et ça, c'était extrêmement précieux. Et puis, bien sûr, nous avions des... Nos conversations littéraires étaient vraiment pas piquées des vers non plus. À toi, ben, c'est à moi que tu confies un petit peu tes angoisses au niveau, justement, du féminisme et des pronoms, parce que tu pensais que j'étais un homme. Et c'est ça que j'avais peur de perdre. J'avais peur de perdre cette relation avec toi qui était extrêmement donc nourrissante, pas seulement au niveau affectif, mais au niveau intellectuel.
Et moi, je me souviens de la lettre de l'aveu, qui est une lettre qui, contrairement aux autres, était une lettre extrêmement excitante, complètement nimbée d'angoisse et enveloppée d'angoisse, ce qui m'a beaucoup surprise parce que ça m'étonnait que tu aies pu penser que je pourrais t'en vouloir ce jeu, ou même ce choix, qui était un choix que je pouvais comprendre vu la situation de l'Amérique et surtout des cercles littéraires à l'époque. Et donc c'est vrai que j'avais pris un soin très particulier dans ma lettre de réponse à essayer de renouer très rapidement le fil de notre discussion en disant que finalement, les choses que j'appréciais chez toi, c'était des choses qui n'étaient pas liées nécessairement à ton identité sexuelle. Et en fait, je m'étais souvenu à cette époque-là qu'un texte que j'avais beaucoup apprécié quand j'étais étudiante, quand on est étudiant aux États-Unis, on nous faisait beaucoup lire du Emerson. Et il y a un texte d'Emerson sur la correspondance qui dit qu'il faut que... Enfin, c'est un texte qui est sur l'amitié, qui dit que la meilleure façon de cultiver l'amitié avec les amis, c'est de ne jamais les voir parce qu'on ne voit que leurs défauts, et au contraire d'entretenir des correspondances avec eux parce qu'ils ne montrent que les aspects les plus beaux de leur personnalité. Et cette correspondance, en fait, elle était fantastique pour moi parce que j'ai eu quelques années glorieuses dans l'édition. Enfin, toute ma vie a été d'une certaine façon, j'ai eu des prix, de la reconnaissance, mais les grandes années où j'ai eu beaucoup de prix, c'est les années 70 à 75. Ouais. Et à ce moment-là, après, être capable d'avoir une conversation intellectuelle avec un autre auteur, c'était pas si donné que ça. Mmh. C'était quelque chose qui était finalement assez rare, surtout qu'en fait, moi, j'avais une dent dure contre une grande partie des écrivains. Donc, par exemple, dans mes essais que j'écrivais à l'époque, qui, à la fin des années 70, ont été pris sous ce volume qui s'appelle « Le langage de la nuit », j'ai des mots assez durs, par exemple, autour de gens que je n'aime pas du tout, comme Poul Anderson, par exemple, que je n'aime pas comme être humain, que je n'aime pas comme écrivain, que je n'aime... Voilà. Et au contraire, que je trouvais chez toi une vraie âme sœur en tant qu'écrivain. Ouais, écrivaine.
Écrivaine, oui, c'est ça.
Je vais vous interrompre, parce qu'il nous reste 7 minutes. Vous avez 7 minutes pour poser une question à James Tipri ou à Ursula Le Guin. Allez-y, c'est quand même pas tous les jours, quoi.
Ah.
Il est très fort.
Voilà. Bon, voilà, ça y est. Alors, c'est pour Ursula Le Guin. Alors j'aime beaucoup dans Lavinia, dont tu as parlé un petit juste à la fin, il y a un lieu de communication avec les morts dans Lavinia, c'est près de du village de Lavignum, il me semble, c'est quelque chose comme ça, où Lavinia va rencontrer Virgile. Et je me demandais, est-ce que tu crées un Virgile qui se sent coupable de l'avoir laissé de côté? Et dans ce cas, tu le fais parler pour qu'il essaye une sorte de rédemption, en quelque sorte post-mortem, mais un petit peu bien avant son existence, ce qui est assez marrant. Ou est-ce que tu prends la voix, finalement, non seulement de Lavinia, mais aussi sublimée par la voix du poète?
Et vous aurez pu tutoyer Ursula Le Guin un jour, quoi.
Oui.
Ça
passe
quand même, hein.
Non, parce qu'en fait, c'est...
Ursula.
Alors, je parle de mémoire parce que j'écris Lavinia il y a quelques années maintenant. En fait, il faut voir aussi que, assez curieusement, la fin de ma carrière de romancière, c'est un retour à mes années de formation intellectuelle qui sont à la fois des années de formation politique. Donc en fait, sur les 20 dernières années de ma vie, j'ai beaucoup écrit sur le Tao. À partir de 2000, j'ai vraiment beaucoup écrit sur la politique et j'ai commencé à construire Lavinia. Et Lavinia, c'était un vrai écho de la culture classique que j'avais apprise au lycée et à l'université. Il faut voir que quand j'étais à l'université, le type de grands romans qu'on nous faisait lire, qui étaient des exercices littéraires, enfin des, ou par exemple deux livres qui étaient très lus à mon époque de quand j'étais à l'université, c'était La Mort de Virgile et un autre texte qui a eu beaucoup de succès en France à l'époque, qui a un peu disparu depuis, s'appelle Dieu est né en exil de Vintila Horia. Et dans ces deux cas, en fait, il y a une réflexion sur faire renaître... Alors, Dieu est né en exil, c'est sur Ovide, hein, c'est pas sur Virgile, mais c'est un peu le même dispositif littéraire. Et il y a cette idée de que quand on écrit et qu'on s'en prend au sérieux, parce que moi, je suis avant tout poétesse, c'est-à-dire au sens où j'ai beaucoup écrit dès l'adolescence de la poésie, j'ai publié plusieurs recueils de poésie. D'ailleurs, parmi les textes qui vont être publiés après ma mort en 2019, il y a des recueils de poésie, il était naturel pour moi de revenir à Virgile. Et en fait, me positionner d'une certaine façon par rapport à Virgile, c'était tout à fait conforme avec ce qu'a dit de moi Harold Bloom, qui est le grand théoricien de la littérature américaine et qui a notamment écrit sur la notion d'hypertextualité avec un livre qui s'appelle L'angoisse de l'influence. Il disait qu'à tout moment, les écrivains et les poètes doivent se situer par rapport à Virgile et faire renaître Virgile.
Waouh. Allez, dernière question. Oui, monsieur au milieu là-bas.
Alors, j'aurais aimé adorer questionner Ursula, mais je vais poser la question à James. Finalement, comment es-tu morte ?
Ah, ben le problème, c'est que mon pseudonyme, James Tiptree, me permettait d'écrire. C'est lui qui m'a vraiment donné la permission d'écrire. Et une fois que cette voix-là n'était plus, je ne pouvais plus me cacher derrière, quelque chose m'est arrivé au niveau de l'écriture et ça n'a jamais été vraiment tout à fait pareil, du moins pour moi. J'ai continué à écrire, j'ai continué à gagner des prix, j'ai écrit en particulier sous le pseudonyme, un autre pseudonyme que j'avais commencé à lancer, le nom de Racuna Sheldon, que je comptais introduire tout en écartant James Tiptree qui serait mort quelque part dans un voyage. Bon, ça n'a pas marché. En anglais, ça s'appelle The Screwfly Solution, qui est du pur James Tiptree, absolument. Vous sortez de là... J'espère aussi déboussoler que moi quand je l'ai écrite. J'arrivais plus à écrire. J'ai essayé d'écrire des romans. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et ces romans n'ont pas été aussi bien reçus. Est-ce qu'ils n'ont pas été aussi bien reçus parce qu'on savait qui j'étais ? Est-ce qu'ils n'ont pas été aussi bien reçus parce que y avait quelque chose qui manquait ? Il n'y avait plus le drive, il n'y avait plus l'élan, il n'y avait plus... Ce pseudonyme m'a donné une liberté que je n'ai pas retrouvée en étant une femme, en redevenant une femme. Et ça a été ma grande tragédie. J'ai continué à lutter contre la dépression. Mon mari était de plus en plus vieux, de plus en plus malade. Nous avions conclu un pacte de suicide. Et il commençait à devenir aveugle. Et j'en ai parlé. J'ai même écrit à quelqu'un. Et je l'ai fait. On a dit, et peut-être que c'est vrai, qu'il n'était pas vraiment d'accord. À ce moment-là, lui, il voulait continuer à vivre. Moi, je n'étais pas capable de continuer à vivre sans lui. Et je pensais qu'il ne pourrait pas continuer à vivre sans moi. J'ai donc pris mon fusil, ce fameux fusil, et d'une manière très peu féminine, parce que les femmes ne se suicident pas en général et ne tuent pas en général avec des armes à feu, je l'ai flingué et je me suis flinguée. Couché à côté de lui, main dans la main, ensemble dans la mort. Et j'avais tout préparé, et tout était préparé depuis très longtemps. Je veux dire que le message était écrit depuis plusieurs dizaines d'années. C'était quelque chose, cette mort qui me... Je pense qui me courait après depuis mon enfance. Et c'est ainsi que je mourus.
Waouh. Et puis, pile poil. Hein. Je voudrais juste mais alors, des monstres d'applaudissements parce qu'ils ont joué le jeu. C'était vraiment génial. Quoi.